Şıtı imo şıtı şıtı imo şıtı şıtı imo
Radio Campus Bordeaux 88.1
şıtı şıtı imo.
Il est 18h08 et c'est à présent l'instant invité et interview. Nous recevons à présent en direct Christophe Jamin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit à Sciences Po, vous êtes également le doyen de cette même discipline dans cette école. Alors si vous êtes un juriste à l'origine, vous êtes également auteur, écrivain et vous venez de publier votre deuxième roman, L'Inaccompli, aux éditions Grasset. On va en parler, mais tout d'abord, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre rapport à l'écriture et à la littérature ? Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ?
Ce qui m'a poussé à écrire, je crois que j'écris depuis l'enfance. Mais j'ai pendant longtemps écrit des choses assez sérieuses du droit, des choses professionnelles. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis aperçu que j'avais peut-être atteint les limites de l'exercice. Mes livres étaient ou correspondaient de moins en moins au canon des livres académiques en droit. Et assez naturellement, je suis passé au roman. Oui, je crois que c'était la fin d'un cycle. C'était la volonté d'exprimer peut-être les mêmes choses, mais d'une manière différente et qui me correspondait plus. D'autant que j'ai un rapport à la littérature tout à fait, je ne sais pas si je peux dire passionnel, mais constant, depuis, je vous le disais, très longtemps. Donc je suis passé du stade de lecteur au stade d'auteur et j'ai eu le bonheur d'être publié par la belle maison Grasset.
Et justement, en parlant de romans, donc L'Inaccompli, votre deuxième roman est sorti le 8 mars dernier aux éditions Grasset. C'est quoi la genèse de ce roman ?
La genèse de ce roman, c'est possiblement d'abord une réflexion sur la violence du monde et mon incapacité à la supporter. Ça, c'est le thème général du roman. Que fait-on avec la violence ? Comment se débrouille-t-on avec elle ? Qu'est-ce que ça produit chez nous ? Et ça, c'est le thème général. Le point de départ, c'est possiblement une rencontre il y a une quarantaine d'années avec une jeune femme russe et sa famille et qui a joué un rôle important dans ma vie. Donc à partir de cette rencontre que j'ai retravaillée, qui est devenue littéraire, j'ai imaginé à travers les deux personnages masculins ce qu'aurait pu être ma vie, ou voilà, de manière de faire avec cette rencontre qui fut assez magique. Donc c'est un travail sur la mémoire, un travail sur l'engagement, un travail sur le temps qui passe, sur le bilan que nous pouvons faire d'une vie. Il y a un peu de nostalgie. Voilà, c'est tout ça, ce roman.
Alors, sans divulguer l'intrigue, donc ce roman, vous le définiriez avec ces termes-là. De quoi ça parle concrètement ? Ça parle donc de violence, ça parle de rencontres, de mémoire ?
Le point de départ sont deux étudiants, qui sont deux étudiants en droit, qui viennent de milieux différents. L'un d'un milieu bourgeois, l'autre d'un milieu plus populaire, et qui ont deux familles dont les passés sont très différents, voire antagonistes, puisque dans le passé de l'un, il y a un rapport très particulier avec les guerres, la guerre d'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale. De l'autre aussi, mais c'est plutôt du côté des victimes. Et ces deux jeunes hommes rencontrent un soir, un peu par hasard, sur une plage, une jeune femme qui est en transit, qui est russe. On est au milieu des années 80. Elle a fui la Russie avec ses parents. Elle est d'un milieu de dissidents. Et ces deux jeunes hommes vont fréquenter cette famille, en particulier le père et aussi la mère, qui vont profondément les marquer. Et là, ils entrent vraiment dans le monde. C'est peut-être le passage de l'enfance à l'âge adulte. Ils s'aperçoivent que, au fond, l'histoire est tragique et ils veulent en être. Et à partir de cette rencontre-là, qui dure quelques semaines à peine, ils vont vivre deux vies très différentes en réagissant de deux manières à ce qu'ils ont vécu. L'un va s'engager très loin et l'autre va précisément refuser de s'engager, va essayer de s'abstraire du monde. Voilà, et c'est ces deux destins qui s'accomplissent, ou qui ne s'accomplissent pas d'ailleurs, puisque c'est le titre, ou pas complètement, et c'est leur retrouvaille aux trois. Les deux personnages masculins, Pierre et Gabriel et Svieta, qui se retrouvent 40 ans après. Et 40 ans après, la question est de savoir si nos engagements valaient la peine et si nous avons été capables de changer le monde ou si ça n'est pas le monde qui ne peut pas être changé. Et c'est des gens qui sont pris dans l'histoire et dans la lessiveuse de l'histoire, et ça se termine par ce que nous pouvons toutes et tous voir sur la guerre en Ukraine, qui est au fond la répétition permanente de cette violence.
Et justement, le terme violence et la violence, elle occupe une place importante dans l'histoire et la vie des personnages de votre roman L'Inaccompli. Comment vous voyez cette violence qui est au cœur de votre récit ? Est-ce que la violence est un sentiment, une action, un processus inévitable dans notre société ? Et est-ce que vous, en tant qu'auteur, vous avez de l'empathie pour cette violence ?
Alors, je n'ai certainement aucune empathie pour cette violence. J'essaye de voir comment plusieurs personnages peuvent s'en sortir et peuvent l'affronter. Et ils essaient de l'affronter de trois manières différentes. Mais peut-être que j'en privilégie une manière. J'essaye de montrer, et ça paraît au fil du roman, que ce n'est pas la volonté d'agir sur l'histoire qui permet de sortir de la violence. Ce n'est pas essayer de lutter avec les armes contre la violence. C'est probablement de porter une grande attention à ceux qui nous sont les plus proches. Au fond, nous arriverons à vaincre la violence par, je lâche ce mot qui peut sembler naïf aujourd'hui, c'est au fond par quelque chose qui ressemblerait à l'amour. Au fond, ce roman est un roman d'amour. Au fond, je crois qu'on ne peut vaincre la violence que par l'amour qu'on porte aux autres et par notre capacité à dire qu'on les aime. Et c'est la raison pour laquelle j'ai placé en exergue de ce livre la phrase de Svetlana Alexievitch, qui, vous savez, est prix Nobel de littérature et qui, à la fin de son discours, où elle a beaucoup écrit sur la violence en Union soviétique, à la fin de son discours de remise du prix Nobel, a cette phrase « De nos jours, il est difficile de parler d'amour ». Et je crois que c'est ça la chose importante, c'est une réponse possible, en tout cas que je soumets aux lectrices et aux lecteurs à travers quelque chose qui est tout à fait singulier. Il n'y a rien d'universel, aucune leçon qui n'est donnée. C'est d'essayer de faire partager un regard, de faire partager des émotions, des sentiments. C'est une littérature de l'intime. L'intime comme moyen de ne pas être broyé par l'histoire.
Alors, L'Inaccompli, c'est votre dernier et deuxième roman. Vous avez écrit un premier roman qui s'intitulait Passage de l'Union, publié en 2021. Est-ce qu'il y a un lien, une continuité entre ce premier roman et ce nouveau et dernier roman, L'Inaccompli, dans votre œuvre ?
Oui, il y a un lien. Le lien, c'est la dette à l'égard des générations qui nous précèdent. Comme je vous le disais, là, les deux personnages, qui sont les deux personnages principaux, mais deux hommes, mais pour moi, les personnages les plus intéressants du roman, ce sont des personnages féminins. Le personnage de Svieta, le personnage d'Esther, qui est la mère d'un des héros. Je n'aime pas le terme de héros. Mais voilà, c'est la dette que l'on a à l'égard des générations qui nous ont précédés. Qu'est-ce qu'on fait quand on sait qu'à l'étage au-dessus, si j'ose dire, on a été soit du côté des bourreaux, soit du côté des victimes de faits d'une violence absolue. Je parle de la violence absolue. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et dans le premier roman, c'était un peu cela, parce que c'était quelqu'un qui s'interrogeait sur les raisons pour lesquelles il était devenu avocat, et qu'il défendait des criminels. Et il trouve l'explication au fil de l'histoire par son ascendance. Maintenant, les romans sont différents, les deux histoires sont très différentes, mais ce sont deux réflexions sur la mémoire, sur le temps qui passe, sur la dette que nous payons à l'égard des autres, même si on peut ne pas être d'accord et penser que l'on n'a pas à payer les dettes des générations qui nous précèdent et que nous sommes libres. Moi, je ne le pense pas. Et donc, c'est ce que j'ai voulu exprimer dans ces deux romans, qui peuvent être lus d'ailleurs, l'un dans le prolongement de l'autre, en quelque sorte.
Alors, on l'a évoqué au début de cette interview, mais vous êtes également professeur de droit. Est-ce qu'il y a une dimension littéraire dans le droit ? Est-ce qu'il y a une dimension juridique dans la littérature ?
Alors, oui, les deux sont vrais. Je pense qu'on peut percevoir le droit comme une œuvre littéraire. Un certain nombre de juristes l'ont pensé, l'ont écrit. On peut comparer un jugement avec une œuvre littéraire. Est-ce que c'est un roman ? C'est une autre question. Mais il y a une part de littérature dans le droit. On travaille sur du langage. Le droit, c'est avant tout du langage. Et donc les rapports entre droit et littérature sont très étroits. Il y a d'ailleurs tout un mouvement intellectuel qui est parti des États-Unis sur droit et littérature, et aujourd'hui un certain nombre de mes collègues s'y intéressent. Il y a une revue qui a été créée il y a quelques années qui s'intitule Droit et littérature. Et puis il y a du droit dans la littérature. Beaucoup d'écrivains et même d'écrivains contemporains s'intéressent de très près au droit. Il y a des ouvrages récents en traite. Et c'est une chose tout à fait intéressante, parce qu'il y a la part de subjectivité de l'écrivain, il y a le regard qu'on peut porter sur le fonctionnement de l'institution judiciaire en particulier. Il y avait le livre classique d'André Gide, mais qui était un peu particulier, Souvenir de la cour d'assises. Mais il y a des romans qui sont des romans qui portent sur la question de justice, le roman de Madame Robert Diard récemment, ou d'autres. Donc les rapports sont très étroits, ils sont dans les deux sens.
Alors, écrire un roman, c'est un travail de longue haleine, sur le temps long. Vous, quel est votre processus de création et d'écriture ? Comment vous passez de la page blanche à l'écriture d'une œuvre ?
Alors, comment je passe de la page blanche ? D'abord, j'écris sur mon ordinateur, donc je n'ai plus de page blanche.
Le fichier Word.
Je travaille avec avec Word, et je n'ai pas de règles. Je n'écris pas à heure fixe. J'écris souvent très tôt le matin, et j'écris dans des lieux très différents, assez souvent dans ma cuisine. Mais je n'ai pas de lieu à moi, je n'ai pas de lieu fétiche, je n'ai pas d'horaire fétiche. C'est à la fois une jubilation et une souffrance que d'écrire un roman. C'est très différent que d'écrire un livre de droit. C'est une œuvre plus subjective encore, c'est une œuvre qui exige beaucoup de sincérité, c'est une œuvre qui exige qu'on mette de soi. Par exemple, le dernier roman là dont nous parlons, quand j'ai mis le point final à la première version, puisque je l'ai retravaillé par la suite, j'ai été pris d'un mal de dos absolument épouvantable qui ne m'a pas quitté pendant un mois. Donc on y met de soi-même, même si ça n'est pas, même si c'est un roman, même si c'est une histoire qui me dépasse. Il y a toujours des éléments très personnels, mais on va puiser au fond de soi. Et tout le travail d'écriture, c'est de combler le vide entre ce qu'on voudrait exprimer et ce qu'on a produit. Et donc, on essaye de faire en sorte que l'un finisse par recouper l'autre. Et ça, c'est un travail assez difficile, qui prend un peu de temps et qui exige de soi beaucoup d'implication. Donc, c'est jubilatoire, parce qu'on... On crée des personnages, on crée une histoire, on est aussi guidé par eux. Hein. Parce qu'à un moment donné, les personnages vous échappent en quelque sorte. On essaie de les rattraper. On peut être fasciné par ces personnages. Moi, j'étais fasciné par quelques-uns des personnages de mon dernier roman. Donc, c'est à la fois jubilatoire et épuisant. C'est les deux. Voilà, c'est ça. Enfin, chez moi, le processus est celui-là. Donc, je me laisse beaucoup guider. J'ai un fil conducteur. Je ne fais pas de fiche particulière, mais je ne cesse pas d'y penser. J'y pense en permanence. J'ai des carnets que je remplis. Et puis l'histoire se construit progressivement. J'essaie de produire une littérature en quelque sorte de l'intime, d'aller au plus profond des personnages, d'essayer de leur faire exprimer ce qu'ils ressentent, ce qui est aussi une manière d'exprimer ce que je ressens. Donc il faut aller puiser au fond de soi. Donc c'est presque une épreuve physique. C'est presque une épreuve physique.
À vous entendre, on voit que l'histoire prend vie d'elle-même. Est-ce que des fois vous êtes surpris parce que vous couchez sur ce fichier Word ?
Ah mais complètement. J'ai vécu pendant 2 ans avec mes personnages. Mes personnages, ils sont présents physiquement. Je suis même tombé amoureux de y a un des personnages, le personnage d'Esther, qui est la mère de Pierre, qui est un personnage qui était tout à fait secondaire au début de l'écriture du roman, est devenu un personnage tout à fait central. Et je la voyais, mais tous les personnages, je les voyais. J'ai vécu avec eux. Ce sont mes contemporains plus que mes contemporains. Et il a fallu m'en défaire. C'est pas facile de quitter ces personnages. Puis à un moment donné, on finit par les quitter. Ils ont leur vie propre. On les abandonne. On les offre aux lecteurs qui vont en faire ce qu'ils veulent, avec leur propre subjectivité, leur propre ressenti. Et pour s'en défaire, le mieux c'est de se mettre à l'écriture du prochain roman, ce qui est le cas. J'ai commencé l'écriture d'un troisième roman et là, je commence seulement à me détacher de mes personnages et de m'attacher aux personnages du troisième roman.
Mais pour en revenir au deuxième roman, il a pour titre « L'inaccompli ». Est-ce que pour vous, c'était une évidence de l'intituler de cette manière ? Et qu'est-ce que ça signifie, l'inaccompli ? Est-ce que c'est un constat sur le sort des personnages ? Eh bien, est-ce une sanction par rapport à leur agissement ? Est-ce que ça évoque aussi peut-être la notion de regret ?
Alors, l'inaccompli, c'est un titre qu'on a trouvé avec mon éditeur à la toute fin. Le manuscrit s'est longtemps appelé « Roulette russe ». Parce que j'y parle aussi de la Russie, j'y parle beaucoup de la Russie, de la Russie soviétique, de la Russie contemporaine, de la guerre en Ukraine. Et puis l'inaccompli est venu d'un roman russe d'une amie lectrice russe qui m'a dit « Mais au fond, ce que tu racontes, c'est ce qui, dans nos vies, n'est pas accompli, ce que nous n'arrivons pas à accomplir. Les deux personnages, à un moment donné, se rendent compte qu'ils auraient pu faire les choses autrement, que leur vie aurait pu être différente. Et dans ce roman russe où on parle de l'inaccompli, l'auteur dit, à un moment donné, on voit, à un moment donné dans la vie, on voit ce qu'on n'a pas accompli, on peut le toucher du doigt, on peut le saisir de la main, et là, ça devient évident ce que nous aurions dû accomplir devient évident. Et c'est exactement ça dans mon roman, au moins pour l'un des personnages. Il comprend qu'il est passé possiblement à côté de sa vie parce qu'il a refusé quelque chose. Alors, je ne vais pas dévoiler le roman, mais il n'a pas pu faire quelque chose qu'il aurait dû faire. Et il est peut-être trop tard. Mais c'est ça l'inaccompli. C'est ce que, dans nos existences, il y a de vide, ce que nous n'avons pas pu réaliser, dont nous prenons conscience à un moment donné. Et là, on en prend conscience avec une évidence folle. Mais parfois, dans nos vies, il est trop tard.
Alors, on ne va pas en dévoiler plus sur l'intrigue. Hein. Vous avez cité une phrase au cours de cette interview de Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature russophone, c'était en 2015. Et dans son discours de remerciement, elle parle d'amour. Elle expliquait que c'est de nos jours, il est difficile de parler d'amour. C'était donc en 2015. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, c'est toujours aussi difficile de parler d'amour? Et est-ce que la littérature peut être un moyen, un vecteur de parler d'amour plus facilement dans notre société?
Ah, je crois qu'il est assez difficile de parler d'amour. Il est assez difficile c'est difficile parce que ça paraît les gens qui en parlent, c'est comme les gens dont vous parlez de la gentillesse. L'amour paraît quelque chose sur ce registre-là, en tout cas, de fade. Je ne parle pas de passion, je parle de l'amour des autres, je ne parle pas d'un état amoureux. Et peut-être qu'aux yeux de beaucoup, encore aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, l'amour peut paraître assez fade par rapport à l'état du monde qui est le nôtre. Et je crois que nous sommes plongés dans un état constant de violence avec des choses qui se répètent. Si je regarde l'Ukraine, vous savez ce qui se passe là-bas, c'est sur ce qu'on a pu appeler les terres de sang. Il y a une histoire très lourde, très profonde qui s'est jouée tout au long du XXe siècle. Et on recommence au XXIe siècle. Malgré les mises en garde, malgré les expériences que nous avons pu avoir. Et c'est une scène qui doit se rejouer à chaque fois. Je pense que au fond, parler d'amour, c'est un discours extraordinairement subversif. Quelques religions fondées sur l'amour ont été des religions, ou sont des religions subversives. Donc en parler, c'est encore de la subversion. Et je pense que c'est une des voies pour essayer de faire face à ce que nous pouvons les uns et les autres constater de la désespérante violence du monde.
Vous avez employé le terme fade pour dire que, enfin, quand on parle d'amour, des fois, ça peut nous sembler fade. Est-ce que vous pensez que l'amour peut avoir ou doit avoir sa place dans des situations politiques, par exemple, ou de géopolitique? Vous avez évoqué notamment la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on conceptualise pas assez l'amour? On se dit que finalement, c'est quelque chose qui paraît peut-être nié, peut-être anodin, quelque chose de l'intime, alors que d'après ce que vous dites, ça peut être bien plus que ça.
Ça pourrait être bien plus que ça, mais je ne tiens pas du tout un discours ni prosélyte, ni religieux, ni... Et évidemment, vous n'allez pas dire au chef d'État actuellement « parlons d'amour », c'est pas le sujet. Je crois que malheureusement, le monde est ce qu'il est. Moi, c'est plutôt pour les individus. C'est plutôt leur manière d'affronter cet état de choses. Maintenant, si tout le monde commençait à vivre de cette manière-là, le monde irait mieux, mais malheureusement, vous m'obligez à tenir un discours quasi religieux, mais hélas, le monde est... puisque je suis juriste, je citerai Carbonnier... Et évidemment, si nous étions des pêcheurs, nous n'aurions pas besoin du droit. Nous n'étions pas des pêcheurs, nous n'aurions pas besoin du droit, mais le droit est un mal pour lutter contre le mal, hein, n'est-ce pas? Donc je crois que nous n'arrivons pas à sortir de cet état-là. Mais le suggérer, se battre en permanence pour que ce discours puisse advenir me paraît être une chose qui permet à l'humanité de vivre à peu près convenablement. Mais vous voyez, c'est le juriste qui a reparlé. Il y aura toujours du droit. Nous avons besoin du droit parce que nous ne sommes pas parfaits. Alors, vu la croissance exponentielle du droit dans nos sociétés, vous pouvez imaginer qu'elles ne sont pas en pleine forme.
C'est le juriste qui a parlé. Là, je pose la question à l'écrivain. Donc, pour résumer, L'Inaccompli, c'est plutôt un roman porteur d'espoir et d'amour, au final.
Mais c'est un roman porteur d'espoir. Ce sont des destins individuels, ce sont des vies, c'est des gens qui se regardent, ce sont des gens qui s'affrontent aussi, parce que le discours de Zvieta à l'égard d'un des personnages est très rude. Oui, chacun essaye de s'en sortir comme il peut. C'est aussi un livre sur la tolérance, sur nos existences. Nous essayons de nous en sortir comme nous pouvons. Nous essayons de survivre dans ce monde. Nous ne pourrons pas le changer. Nous ne pourrons probablement pas le changer. Malgré ce qu'en pensent à 20 ans les protagonistes, ils n'arriveront pas à le changer. Et encore, dans le roman, ils le changent un tout petit peu. Ils le changent à un niveau très individuel. On arrive à changer le monde pierre par pierre en s'engageant sur des choses très personnelles. De ce point de vue-là, on y arrive. Pour le reste, on est un peu broyé. Mais on peut, les individus ont une grande capacité de résistance. C'est peut-être ça le roman, sur notre capacité, c'est vous qui me le faites dire, capacité de résistance à l'égard du monde. Encore faut-il s'engager, même sur de petites choses.
L'Inaccompli, c'est donc votre deuxième roman, d'ores et déjà disponible aux éditions Grasset. En tout cas, un grand merci, Christophe Jamin, d'être venu sur notre antenne et d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
Campus Bordeaux 88.1.
Radio Sunda 88.1.